France Info.
Bonsoir à tous. C'est l'une des images du jour. En ce 1er mai, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux Européennes, empêché de manifester, hué, aspergé de peinture. Que paye-t-il? Au même moment, Marine Le Pen laissait Jeanne d'Arc à Marion Maréchal. A-t-elle réussi son opération banalisation? Plus de 200 000 personnes ont manifesté en cette journée, selon la CGT, nettement moins que l'an dernier. Les syndicats étaient portés à ce moment-là par leur lutte contre la réforme des retraites. Mais que pèse-t-il aujourd'hui? Et puis, le mouvement étudiant pro-Palestine dérape aux États-Unis. Après Columbia, des affrontements ont éclaté à Los Angeles. La situation peut-elle se transposer en France? Peut-on parler d'américanisation de nos universités? Pour nous éclairer, notre expert ce soir, Simon Grivet, maître de conférence en histoire des États-Unis à l'Université de Lille. Et nous en parlons, bien sûr, avec nos informés. Patrice Moyon, chroniqueur économique et social, éditorialiste à Ouest-France, Louis Alter, journaliste politique au Figaro, et Charles Sapin, journaliste politique au magazine Le Point, auteur des Moissons de la colère, plongé dans l'Europe, aux éditions du Cerf. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Cette image a marqué aujourd'hui Raphaël Glucksmann, contraint d'être exfiltré. Il n'a pas pu manifester à Saint-Étienne, pris à partie par une cinquantaine de militants qui lui ont jeté de la peinture au cri de « Glucksmann, casse-toi » ou « Palestine vivra ». On écoute la tête de liste PS, Place publique aux Européennes, juste après son exfiltration.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de Révolution permanente et de la France insoumise. Donc voilà, c'est leur conception du débat démocratique. C'est pas la nôtre. Nous, on est des démocrates de combat, des démocrates jusqu'au bout des ongles. Et on exclut a priori toute forme de violence physique et verbale de la confrontation politique qui fait vivre la démocratie.
Que paye Raphaël Glucksmann aujourd'hui ? Patrice Moyon.
D'abord, je pense qu'il paie sa montée en puissance dans les sondages pour les élections européennes. C'est-à-dire que on voit qu'il pourrait même peut-être griller la politesse et être en troisième, voire deuxième place. Il paie aussi probablement ses positions dans le conflit israélo-palestinien. Et la radicalisation du débat politique en France aujourd'hui.
Oui, parce que pourquoi vous dites qu'il paye sa position sur le conflit israélo-palestinien?
Tout simplement parce qu'il est agressé par... Alors, il a dit qu'il avait été agressé notamment par des militants de la France insoumise. Hein, donc, on a vu le débat sur est-ce que l'action du Hamas était-elle ou non une action terroriste. Et lui, il condamne aussi les exactions qui sont commises par les troupes israéliennes.
Mais il n'est pas assez de gauche pour cette gauche-là, c'est ça?
Il n'est pas assez de gauche pour cette gauche-là. En fait, on est aujourd'hui face à deux gauches qui me semble-t-il, sont irréconciliables.
Qui en veut à Raphaël Glucksmann, Charles Sapin?
Non mais c'est ça, vous avez bien résumé la chose, c'est-à-dire que c'est pas nouveau d'ailleurs, il y a toujours eu ces deux gauches irréconciliables. Alors on l'a un peu oublié parce que lors des dernières
législatives... C'est une phrase de Manuel Valls,
Tout à fait, qui je crois l'avait emprunté à quelqu'un, alors je me rappelle plus qui exactement, mais on l'a un peu oublié parce que lors des dernières législatives en 2022, ces deux gauches se sont... en apparence, réconcilié à des fins électoralistes. On se rappelle de la constitution de la NUP pour avoir le plus de députés possible, ce qui a marché. Ça a très vite craquelé. Et si vous voulez, ces différences entre deux gauches, une gauche qui est plus radicale, identitaire, populiste, communautariste, et qui est plutôt représentée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, et une autre gauche qui, elle, est universaliste, laïque, modérée, qui est la gauche de Raphaël Glucksmann. La fracture est là, béante, et elle est encore plus prégnante depuis évidemment les événements du 7 octobre. Et on voit les deux stratégies de ces gauches rivaliser avec des échéances, semble-t-il, différentes. C'est-à-dire que le parti pris modéré de Raphaël Glucksmann est payant pour ces élections européennes parce que sociologiquement, ce sont des élections où vous avez un électorat un petit peu plus âgé, plus CSP+, qui se mobilise pour les européennes. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est plus à un horizon plus lointain et on pense à l'élection présidentielle où il y a une mobilisation plus forte, notamment socialement plus communautarisé.
Et Raphaël Glucksmann ne prend pas que des électeurs à Jean-Luc Mélenchon, au passage, il prend aussi à Emmanuel Macron.
Aux écologistes et à Emmanuel Macron. Mais les sondages montrent que c'est quand même surtout des vases communicants à l'intérieur de la gauche. Et que cette élection européenne, c'est une suite du règlement de compte entre les différentes gauches dont vous parliez, effectivement. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'union de la gauche à ces élections européennes alors qu'il y a eu effectivement la NUP aux législatives de 2022? Parce que, un, c'est une élection proportionnelle, et deuxièmement, il n'y a qu'un seul tour. Donc c'est l'élection où chaque parti part sous ses couleurs et où il peut quelque part se tester, c'est-à-dire se mesurer sa cote de sympathie en temps réel et au passage envoyer des députés européens à Bruxelles. Ça sert pour avoir des élus, pour peser et pour avoir des moyens, des collaborateurs également. Alors qu'aux législatives, bah, si au second tour vous n'êtes pas unis, bah, vous êtes battus, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'était l'opération réussie d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon à l'époque, qui était plutôt quand même de derrière son programme d'unir les différentes forces de gauche et d'avoir, lui, pour la France insoumise, le plus de victoires et le plus de sièges à l'Assemblée nationale parmi toutes les forces de gauche. Là, c'est l'occasion, et d'ailleurs c'est toujours le cas, il n'y a jamais les dernières élections européennes, il n'y avait pas d'union de la gauche non plus, c'est toujours l'occasion pour la gauche de se compter, de se mesurer, de voir, l'électeur voit ses différentes composantes proposer leur offre politique, mais comme l'a dit Charles Sapin, la sociologie particulière de l'élection, qui fait que malheureusement, bah, il y a 50% d'abstention en général, que c'est un public plus inséré, plus informé, plus âgé aussi, qui vote, favorise des positionnements plus modérés. Et donc Raphaël Glucksmann, pour l'instant, et c'est d'ailleurs ce que montre notre sondage quotidien pour le Figaro, est en train de tirer son épingle du jeu. Les courbes, si ça continue comme ça, les courbes vont s'inverser entre les intentions de vote pour la liste Renaissance et les intentions de vote pour la liste de Raphaël Glucksmann, ce qui serait évidemment une catastrophe pour la Macronie.
Et Raphaël Glucksmann met en cause, en tout cas explicitement, les Insoumis, ce qui a provoqué la colère de Jean-Luc Mélenchon. Les Insoumis, d'ailleurs, ont passé la journée à se défendre de toute responsabilité dans cette affaire. Et ce soir, Jean-Luc Mélenchon exige des excuses. Raphaël Glucksmann, excusez-vous, a-t-il écrit sur X. Patrice Moyon, Jean-Luc Mélenchon attend vraiment des excuses de Raphaël Glucksmann ou pas?
Il ouvre le parapluie, mais on peut quand même dire que Jean-Luc Mélenchon a contribué à radicaliser le discours. Et s'il y a dérapage de certains de ses militants, il a une responsabilité aujourd'hui importante.
Oui, Raphaël Glucksmann avait dit récemment qu'il y avait une rupture consommée avec Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a aucun scénario où ces deux gauches se retrouvent, en tout cas celle de Raphaël Glucksmann, est-ce que c'est elle qui incarne l'après insoumis? Parce que c'est peut-être aussi cela qui se joue aujourd'hui dans ces débats entre Raphaël Glucksmann et les insoumis, c'est le monopole de la gauche. Est-ce que Raphaël Glucksmann peut être celui qui mettra fin au monopole des insoumis à gauche? Charles Sapin.
Écoutez, c'est une question ouverte et j'aimerais bien rencontrer celui qui est capable avec précision et certitude de vous répondre. Ce qui est juste, c'est qu'aujourd'hui, la dynamique est derrière Raphaël Glucksmann. Pour citer ce sondage du Figaro IFOP, Raphaël Glucksmann, il y a 22% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon de la dernière présidentielle au premier tour qui votent aujourd'hui Raphaël Glucksmann. Mais différentes échéances, différents votes. J'ai pu échanger avec le maire de Fleuranges, qui s'appelle Rémi Dick, et il m'a parlé d'un bureau de vote en particulier, qui est le bureau de vote numéro 4. Si vous voulez, en moyenne, dans les élections intermédiaires type européennes, vous avez 180 votants, et en gros, c'est 45% RN. Il y a une exception, c'est l'élection présidentielle. Là, vous avez 520 électeurs, et c'est 65% LFI. C'est un quartier prioritaire de la ville. Et en fait, vous voyez bien que la sociologie en fonction de l'élection qui vote n'est pas la même et ça change complètement le rapport de force, avant tout à gauche.
20h, 21h, les informés, Agathe Lambray.
Toujours en compagnie de Patrice Moyon, chroniqueur économique et social, éditorialiste à Ouest France, Charles Sapin, journaliste politique au magazine Le Point, et Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. Louis Osalter, on parlait de ces déchirements à gauche, et donc ce qui se joue là, c'est l'après-européenne en fait, l'après-européenne pour la gauche.
Oui, c'est la recomposition. Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les élections européennes ont rarement des conséquences sur la présidentielle d'après. En 2009, il y a une grosse poussée des écologistes. Ils n'ont jamais gouverné le pays jusqu'ici. En 2014 et 2019, Charles Sapin le sait mieux que moi, il suit de près ces questions-là, le Rassemblement national l'emporte largement. Et ben Marine Le Pen n'est pas élue à la présidentielle. Elle perd par deux fois. Donc il n'y a pas des conséquences immédiates en général, quelques années après, pour la présidentielle. D'abord parce que, comme on l'a dit, la moitié des gens ne votent pas, en général, aux élections européennes, ce qui modifie effectivement la sociologie électorale. Et puis c'est un vote qui a un aspect plus défouloir. L'Europe, c'est loin, on élit des eurodéputés, on ne sait pas vraiment qui c'est. On vote beaucoup sur les questions nationales alors qu'on vote pour des élus européens. Donc il y a tous ces paramètres qui font que, quelque part, le vote est presque moins pris au sérieux, entre guillemets, qu'une élection présidentielle, où là, on a une claire vision de celui qui concentrera la majorité des pouvoirs pendant 5 ans. Du coup, pour la gauche, ça veut dire que l'enseignement, il n'est pas immédiat pour la gauche. C'est pas parce que Raphaël Glucksmann sera devant la France insoumise que un candidat sur la ligne Glucksmann, c'est-à-dire une ligne de centre-gauche, sera devant Jean-Luc Mélenchon en 2027. C'est faux. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, ne tirera pas, certainement pas pour enseignement, un faible score de la liste insoumise pour se retirer et expliquer qu'il doit être remplacé, selon son expression. Parce qu'en réalité, il a toujours le cap sur la présidentielle de 2027. En revanche, ce qui peut jouer, c'est effectivement s'il y a un affaiblissement du pôle insoumis et que la liste fait, comme le disait le sondage, autour de 6-7%.
Il sera quand même en position de force, Raphaël.
Ouais, c'est ça. Ça l'affaiblit un petit peu. D'abord parce que Raphaël Glucksmann aura pas ressuscité, mais réanimé un petit peu cette social-démocratie qui avait terminé moribonde après le quinquennat de François Hollande, qui avait même pas pu se représenter tellement il était décrédibilisé. Et puis, il y a François Ruffin. C'est-à-dire que sur un créneau plus à gauche que Raphaël Glucksmann, il y a quelqu'un qui, lui, n'est pas dans une stratégie effectivement communautariste, mais dans plutôt une jonction avec... en fait, il veut joindre les différentes classes ouvrières, quelque part. Et puis surtout, il veut convaincre des électeurs du Rassemblement national, qui est un électorat assez captif, donc bon courage à lui, c'est pas évident, mais il y a François Ruffin qui, comme l'a montré un sondage récemment, au second tour, aurait plus de chances de faire consensus qu'un Jean-Luc Mélenchon qui est devenu une figure repoussoire de la vie politique pour tous les autres camps politiques.
François Ruffin, Patrice Moyon, il incarne un espoir aujourd'hui, lui aussi?
En tout cas, il a parfaitement compris que le Rassemblement national avait son succès parce qu'il avait su capter les milieux populaires. Donc lui, il a parfaitement compris l'importance de la question sociale. Et je pense que c'est là-dessus qu'il veut aujourd'hui se démarquer par rapport à Jean-Luc Mélenchon.
Et Patrice Moyon, est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, cette guerre à gauche, c'est pas une revanche pour les éléphants du PS qui mettaient en garde contre cette alliance, contre la NUPES, François Hollande, Carole Delga, Bernard Cazeneuve? Est-ce que les événements leur donnent raison aujourd'hui?
Est-ce que les événements leur donnent raison? En tout cas, c'est une manière pour le PS d'espérer sortir du long tunnel dans lequel il est bloqué depuis quelques années. Mais je pense que le chemin pour reconquérir un électorat social-démocrate et être une véritable alternative, je pense que le chemin va être très long.
Pas de quoi se réjouir, Charles Sapin, pour l'instant, à gauche, chez les anciens? Chez ceux qui rêvent d'un retour de la social-démocratie?
Ils peuvent avoir, si vous voulez, il y a quand même... ce qui était très commenté en 2019 lors des élections européennes, c'est vrai que c'était cette percée de Yannick Jadot, et on s'était dit, ça y est, en fait, le Parti Socialiste est définitivement mort, les écologistes ont pris le leadership, donc maintenant, la bataille sera entre des écolos où la force supplétive serait le PS face à Jean-Luc Mélenchon. Là, on voit que finalement, non, le jeu n'est pas encore fait. C'est vrai que le Parti Socialiste renaît un peu de ses cendres. D'une certaine façon, de l'autre côté de l'échiquier politique, on voit aussi le parti de droite LR qui a fait moins de 5% à la présidentielle reprendre modestement, mais reprendre un petit peu de couleur autour de 8%. C'est intéressant, mais il ne faut pas oublier que c'est des élections de mi-mandat. Et en effet, comme l'a très bien rappelé Louis Osalter, les conclusions ne peuvent pas être hâtives et ne seront que modérées vis-à-vis de la prochaine présidentielle.
On va laisser la gauche et on va aller de l'autre côté de l'échiquier politique, tandis que la gauche se déchire beaucoup plus à droite. Tout à droite, on s'échange une figure historique, Jeanne d'Arc, longtemps symbole du FNRN. On se souvient tous ici au passage hein, de ce surgissement de Jean-Marie Le Pen avec son anorak rouge sur la scène où Marine Le Pen tenait un discours. Jean-Marie Le Pen qui avait eu cette supplique « Jeanne au secours » en 2015. Aujourd'hui, donc, Marine Le Pen abandonne cette figure et c'est sa nièce Marion Maréchal qui la récupère. Elle était aujourd'hui à Domrémy-la-Pucelle où est née Jeanne d'Arc. Écoutez Marion Maréchal.
Je voulais moi aussi pouvoir lui rendre hommage parce que je considère aujourd'hui que le combat qu'on mène, c'est un combat de reconquête pour la France et les Français au même titre d'une certaine manière que Jeanne à son époque. Ça ne s'adresse pas qu'aux électeurs du RN d'ailleurs. Une fois de plus, c'est un hommage qu'on veut rendre pour l'ensemble des Français. Mais si bien sûr les électeurs du RN voient là l'occasion de pouvoir perpétuer avec nous un hommage auquel ils étaient attachés et qui est peut-être aujourd'hui un peu plus délaissé, eh bien ils sont évidemment
les bienvenus. Patrice Moyon, pourquoi Marion Maréchal récupère sert-elle, ce symbole? Elle veut grappiller quelques voix, quelques nostalgiques?
Peut-être, c'est de toute façon une figure qui n'appartient à personne ou à aucun camp. Hein. Edgar Morin, il y a quelques mois, dans un entretien à Ouest France, disait qu'on manquait de grandes figures comme le général de Gaulle ou Jeanne d'Arc. Ce qui est intéressant, c'est de voir le discours prononcé par Marion Maréchal à Dorémy, juste à quelques kilomètres de là, il y a Vaucouleurs. Vaucouleurs, c'est une toute petite commune, une petite ville, 1800 habitants. C'est de là que Jeanne d'Arc est partie le 23 février 1829. Et dans cette commune, dans les années 80, il y avait encore deux chemiseries, il y avait une fonderie, juste en face, à Chalaine, il y avait une fromagerie. Aujourd'hui, toutes ces entreprises ont disparu. Et c'est dans ce territoire que le Rassemblement national, aujourd'hui, fait 40, 50, 5, voire plus de voix. Et je pense que le Rassemblement, je le disais tout à l'heure, mais je pense que la question sociale explique une grande partie du succès, la désespérance sociale, une partie des ouvriers qui ont perdu leurs emplois, qui ne voient pas de perspective et qui aujourd'hui sont dans les bras du Rassemblement national.
20h, 21h, les informés. Agathe Lambray.
Toujours en compagnie de Patrice Moyon, chroniqueur économique et social à Ouest France, Louis Osalter, journaliste politique au Figaro, et Charles Sapin, journaliste politique au magazine Le Point. Pourquoi, Louis Osalter, Marion Maréchal récupère-t-elle cette figure de Jeanne d'Arc? Est-ce que c'est parce qu'elle est en mauvaise posture dans les sondages pour les européennes et qu'elle aussi, elle crie Jeanne au secours?
Alors oui, pour la mauvaise posture dans les sondages, et en plus, au sein de Reconquête, en coulisses, il y a des tensions très fortes entre Éric Zemmour, qui est le patron du parti, et Marion Maréchal et l'équipe qui l'entoure sur énormément de questions, sur la stratégie. Ça se passe assez mal depuis le début et ça n'aide pas quand vous avez un parti divisé comme ça en coulisses à la dynamique de campagne. Sur Jeanne d'Arc, bon, Patrice a raison, c'est une figure, c'est étonnant d'ailleurs. Beaucoup de camps sont souvent tentés de récupérer la figure de Jeanne d'Arc. À la fin du 19e siècle, début du 20e, c'était la gauche républicaine qui se réclamait de Jeanne d'Arc quand il s'agissait de raconter des épisodes de l'histoire de France qui allaient un petit peu donner de l'impulsion à la République, hein, on parlait de la République.
Oui, et Emmanuel Macron, l'un des premiers actes
bien sûr,
qu'il a posé, c'est de rendre hommage à Jeanne d'Arc.
Il est allé aux fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans en 2016, donc il a lui aussi...
C'était un de ses premiers grands discours, il n'avait pas la même voix qu'aujourd'hui.
Il était candidat, il n'avait pas le même visage.
Et il avait choisi cette figure.
Il y était allé en 2016, donc preuve que c'est une figure inspirante pour bien des politiques. Donc c'est vrai que dans l'imaginaire français récent, on l'associe pas mal au Rassemblement national, au Front national avant, parce que Jean-Marie Le Pen en avait fait un personnage qui l'inspirait justement. Mais je crois que bon, premièrement, personne n'est dupe. Deuxièmement, si on s'intéresse, si on fait un zoom donc sur ces forces rivales que sont le Rassemblement national et Reconquête, quelque part au RN, dans l'entourage de Marine Le Pen, certains font l'analyse que c'est pratique d'avoir Reconquête a fortiori en train d'aller récupérer les anciens oripos du Rassemblement national.
C'est-à-dire qu'il y a plus à droite que c'est ça.
Exactement, ça permet de dire, regardez, eux, c'est l'extrême droite, donc ça veut dire que nous ne sommes pas d'extrême droite, et donc ça permet de décoller ce qualificatif infamant. Ça permet de constituer aussi un réservoir d'électeurs, dans le cas des élections à deux tours, ce que ne sont pas les élections européennes, ça peut constituer un réservoir d'électeurs, une force d'appoint, même si la haine est cuite et recuite entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, donc ils ne vont pas faire alliance, mais ils peuvent considérer que, en tout cas certains considèrent au Rassemblement national, que avoir un petit réservoir d'électeurs qui peuvent les rejoindre au second tour, ça peut être pratique, ça peut attirer des gens qui ne sont pas fans de Marine Le Pen, mais qui iraient voter pour Reconquête dans un premier tour et se rabattraient sur Marine Le Pen dans un second tour. Voilà, certains font l'analyse que, finalement, Reconquête à 5% dans les sondages, ça peut être utile au Rassemblement national, à la fois en termes d'image et en termes de réserve électorale.
En tout cas, Marine Le Pen a-t-elle besoin d'une réserve électorale, Charles Sapin? On dirait plutôt qu'elle marche sur l'eau, là, non, pour les européennes. Est-ce qu'il y a un excès de confiance au Rassemblement national, d'ailleurs?
Est-ce qu'il y a un excès de confiance Je ne sais pas. Oui, visiblement. Enfin, Jordan Bardella dépasse les 30% d'intention de vote dans la plupart des sondages. Et visiblement, ça le pousse à faire une très curieuse, drôle de non-campagne, en fait. Il s'est échappé pour deux débats auxquels il a préféré ne pas participer. Il réduit vraiment à minimum les échanges avec journalistes. Si vous voulez, par rapport à la campagne européenne de 2019, ou première campagne européenne pour lui, où il incarnait cette tête de liste que tout le monde découvrait, ainsi que dans son parti, où il y avait des concepts nouveaux qui étaient mis dans la l'atmosphère. Je pense notamment au localisme. Alors bon, maintenant, ils l'ont abandonné comme beaucoup de concepts. Mais désolé, là, depuis 6 mois qu'il est en campagne, je suis incapable de vous dire quel concept nouveau il a mis dans l'espace. Non, mais ce qui est intéressant, pour revenir à Jeanne d'Arc, c'est que...
Alors vous, vous avez écrit un livre sur la montée des nationalismes en Europe. Pourquoi Marine Le Pen abandonne ce symbole de Jeanne d'Arc? Est-ce que ça fait partie de sa stratégie de banalisation? Et c'est ce qui lui permet de progresser, c'est ça?
Totalement. Et ça rentre en résonance avec les droites nationalistes en Europe. C'est-à-dire qu'au départ, Marine Le Pen abandonne Jeanne d'Arc et tout le cérémoniel de Jean-Marie Le Pen. On s'en souvient, c'était des cortèges rue de Rivoli et qui terminaient par des meetings à Opéra. Quand Marine Le Pen reprend en main le Front National devenu Rassemblement National, elle change totalement l'événement. Pourquoi? Parce que bon, déjà, ça coûtait cher. Ensuite, c'était trop marqué par l'image de son père. Et elle voulait finalement remplacer ce qui était un rassemblement plutôt identitaire par quelque chose de plus social qui lui ressemblait plus. Et c'est en ça que c'est intéressant, puisque la force du Rassemblement National et de Marine Le Pen constitue en Europe ce qu'on peut appeler des nationaux populistes, c'est-à-dire dont les questions sociales, et vous l'avez rappelé, sont beaucoup plus prégnantes que les questions sociétales et qui sont sur une logique d'opposition peuple élite. Ce qui est très différent de Reconquête. Reconquête, pourquoi Marion Maréchal se saisit du symbole qui est Jeanne d'Arc, pas uniquement pour faire un clin d'œil aux électeurs du Rassemblement National, c'est parce que ça rentre aussi en résonance avec la spécificité de sa force, qui est une force nationale conservatrice, c'est-à-dire qui, elle, se revendique de droite, contrairement au Rassemblement National, qui est davantage radical, identitaire, et qui, à l'image de son alliée italienne Giorgia Meloni, a un discours civilisationnel, empreint de la culture judéo-chrétienne, dont, finalement, les questions spirituelles et sociétales passent d'abord et sont plus importantes que les questions sociales. Et finalement, ce clivage entre nationalistes, on le retrouve partout, d'un bout à l'autre du continent.
Patrice Moyon, est-ce que Marine Le Pen a réussi son opération banalisation?
En tout cas, quand on regarde les sondages, oui, plutôt oui. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de, dans le cadre des européennes, on n'a pas eu de vrai camp. Enfin, Jordan Bardella esquive tous les sujets les plus difficiles, alors qu'on est quand même dans une élection qu'on peut qualifier d'historique avec la guerre en Ukraine, alors que il y a les enjeux liés à la réindustrialisation, les enjeux liés à la transition climatique. Je pense que ces dernières semaines vont être très importantes parce que on va être là peut-être effectivement dans une vraie campagne qui n'a pas encore commencé.
Et est-ce que le RN, en attendant, arrive à garder la tête froide? On va écouter Marine Le Pen aujourd'hui en meeting à Perpignan.
Nous devons les sanctionner. Nous devons les congédier. Nous devons donner à ce pouvoir la plus cinglante sanction électorale qu'on puisse lui infliger. Et cette sanction, elle sera mesurée, n'en doutez pas, à l'écart entre la liste emmenée par Jordan Bardella et celle des déconstructeurs macronistes. Donc le 9 juin... Pas d'abstention, non, et pas de dispersion non plus.
Marine Le Pen qui insiste sur l'écart qu'elle souhaite voir entre sa liste et celle des macronistes. Les Alter, est-ce qu'ils ne prennent pas un risque, les troupes de Marine Le Pen, à pousser cet objectif? C'est-à-dire que s'ils distancent pas très largement Valérie Ayé, on dirait que c'est un échec en fait.
Oui, mais en fait, l'écart est là dans les sondages. Depuis longtemps, tous les sondages depuis le début de la campagne disent il y a un fort écart. Du coup, c'est ça qui met la pression sur le Rassemblement National. Et c'est pour ça que Marine Le Pen, elle insiste en disant à ses électeurs, mais ce n'est pas parce que nous sommes très favoris et largement favoris dans les sondages qu'il ne faut pas y aller. Et d'ailleurs, Jordan Bardella a dit exactement la même chose dans sa prise de parole juste après, ni abstention, ni fragmentation, c'est-à-dire tentation d'aller vers d'autres listes concurrentes comme celle de Marion Maréchal, par exemple, ce qui pourrait être la tentation pour certains électeurs.
Ils sont vraiment inquiets d'une démobilisation
de leur électorat. Ils ont le traumatisme des élections régionales et départementales de 2021, où les sondeurs avaient vu 1, 2, 3 régions basculer dans l'escarcelle du Rassemblement National. Il n'en a rien été. Parce qu'il y a un subir reflux du Rassemblement National dans le pays, mais parce que les électeurs de Marine Le Pen ne sont pas allés voter. C'est aussi bête que ça. Et d'ailleurs, dans son allocution à la fin de cette soirée électorale de 2021, elle avait quasiment engueulé ses électeurs en leur disant « Mais pourquoi n'y êtes-vous pas allés ?» Et ça reste quand même très
elle leur avait presque remonté les bretelles.
Ouais, c'est ça. C'est assez quand même récent dans la mémoire du Rassemblement National. Et en fait, c'est pour ça qu'ils se laissent pas tant que ça grisé par les sondages, c'est parce que effectivement, en voyant un Jordan Bardella à plus de 30% dans les sondages, un électeur sympathisant de Jordan Bardella pourrait se dire, après tout, il a pas besoin de moi, je vais pas me déplacer un week-end de juin pour l'aider, il va gagner. C'est ça la terreur de Marine Le Pen.
20h, 21h, France Info, les informés, Agathe Lambray.
Toujours avec Patrice Moyon, chroniqueur économique et social, éditorialiste à Ouest France, Louis Osalter, journaliste politique au Figaro, et Charles Sapin, journaliste politique au magazine Le Point. Grand 1er mai politique, petit 1er mai syndical. On se pose la question tout de suite avec ce sujet aussi qui agite les syndicats, la montée du Rassemblement National, comme la société. Eh bien, les syndicalistes y sont confrontés. Et alors, ils n'ont pas la même réponse face à Marine Le Pen, tous, Charles Sapin.
Ah non, c'est vrai, mais c'est un vieux sujet. Moi, je me souviens d'une une du quotidien L'Opinion, qui a été écrite par Béatrice Houchard, où il y avait les centrales syndicales face au risque Front National à l'époque. C'est vrai que vous avez une situation un peu paradoxale, c'est que derrière l'opposition très ferme et bruyante des têtes syndicales contre le parti Rassemblement National, vous avez une part très importante des personnes encartées dans ces différentes centrales qui, eux, votent Rassemblement National. Que ce soit la CFTC ou Force Ouvrière, si vous voulez, les encartés ont placé Marine Le Pen en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen est arrivée juste derrière Jean-Luc Mélenchon pour les encartés CGT en 2022, avec 22%, je crois. Ce n'est pas illogique, si vous voulez, puisque Marine Le Pen, mais ça a déjà été souligné, est la première candidate chez les classes populaires, et elle a réuni 36% des voix des ouvriers lors de la dernière présidentielle, qui sont la catégorie la plus syndiquée. Mais c'est intéressant, en effet, de rappeler ce paradoxe, c'est-à-dire cette opposition entre les têtes des centrales syndicales et leur base, qui est en fait une situation analogue qu'on peut trouver avec, par exemple, sur la question de l'immigration dans les partis de gauche. Vous avez, par exemple, 53% des encartés de la France insoumise qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Or, les têtes de la France insoumise assimilent à extrême droite tout ce qui est contre l'immigration. C'est d'ailleurs un peu la même question.
Vous dites que c'est pas illogique que les classes populaires votent pour Marine Le Pen, et en même temps, le Zalter, c'est un symbole de plus de ces digues qui tombent catégorie par catégorie autour de Marine Le Pen. Elle s'adresse aujourd'hui à un public assez différent du Rassemblement National il y a 10 ans, d'il y a 20 ans.
C'est ce qui est frappant quand on regarde les intentions de vote, notamment dans le détail, c'est-à-dire qui vote pour qui. Il y a une particularité que les sondeurs notent depuis des mois, c'est que, en tout cas sur les intentions de vote pour la liste de Jordan Bardella, c'est qu'en fait ils progressent dans toutes les catégories. C'est pas un vote figé sociologiquement comme le sont maintenant beaucoup de votes, parce que il y a un morcellement du paysage politique, il y a une archipélisation de la société, comme l'a dit et redit Jérôme Fourquet. Les votes deviennent un petit peu des niches sociologiques. Quand on vote écolo, c'est plutôt le vote du bobo urbain, pour caricaturer à peine. L'électorat Macron, c'est plus un électorat âgé et plutôt aisé. Le vote Bardella, de ce qu'il devient en tout cas, dans ce qu'on voit dans les intentions de vote, c'est plus seulement un électorat ouvrier, déclassé, populaire. Il a beaucoup gagné dans les classes moyennes, ça devient un vote de classe moyenne. Ça devient aussi un vote de personnes âgées, ce qui était vraiment exclu dans le Rassemblement National d'antan. L'une des barrières des digues électorales contre le RN, c'était le vote des personnes âgées. Or, il y a une percée dans les personnes âgées. Il y a aussi des percées géographique. En Bretagne, par exemple, on vote beaucoup plus Rassemblement National qu'avant, alors que c'était auparavant une terre hermétique. Le point de bascule, sans doute, pour Marine Le Pen, qui n'est pas encore fait, ce sont les catégories supérieures, les CSP+, les classes dirigeantes, les décideurs. Il y a beaucoup de patrons, TPE, PME, petites entreprises, qui sont dans son camp. Mais dans les grands patrons, j'allais dire, dans l'élite parisienne, on va la résumer comme ça, elle cherche, en fait, à faire ce point de bascule en rencontrant notamment en secret des membres de cette élite, parce que il lui manque ça en réalité pour gagner une élection. Mais ce qui est frappant dans les intentions de vote pour le Rassemblement National, c'est le seul vote qui progresse dans quasiment toutes les catégories, qu'on prenne les âges, les professions, les sociologies, la répartition géographique. C'est un vote qui effectivement fait tomber une par une les digues électorales qu'il y avait avant.
Et à qui parlent encore les syndicats? Ils étaient 210 000 dans la rue en France aujourd'hui, selon la CGT, 121 000 selon le ministère de l'Intérieur, nettement moins que l'an dernier quand ils étaient portés par la réforme des retraites. Écoutez Sophie Binet, la patronne de la CGT.
Le mot d'ordre, c'est d'abord que le mépris, ça suffit. C'est notre travail qui fait tourner la société et donc notre travail doit être rémunéré. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avec ce gouvernement, c'est tapis rouge pour les PDG et les actionnaires et par contre la diète pour les salariés. Le deuxième mot d'ordre, c'est la casse sociale, c'est plus possible. La réforme de l'assurance chômage, elle est violente, injustifiée. Il faut y renoncer parce qu'elle est dangereuse.
Patrice Moyon, les motifs de grogne sont là pourtant en France aujourd'hui. Pourquoi ça ne prend pas davantage ?
Alors ça ne prend pas. D'abord, il faut rappeler que le taux de syndicalisation en France est très faible. Hein, c'est 10,3%. Hein, c'est un peu plus dans la fonction publique, 18%, et dans le privé, autour de 8%, je crois, de mémoire.
Vous voulez dire que ça n'a jamais pris ?
Donc je pense que ça n'a jamais pris. Alors l'an dernier, il y avait effectivement encore le mouvement des retraites. Là, c'est passé. Aujourd'hui, il y a peut-être des inquiétudes aussi sur le plan social, des inquiétudes sur le pouvoir d'achat. Mais ça ne suffit pas à mobiliser en fait dans la rue. Donc pour l'instant, les syndicats n'arrivent pas à agréger de colère. En revanche, ils font tous état des bénéfices quand même de la mobilisation sur les retraites qui leur a permis de gagner des adhérents.
Et Louis Osalter, en plus de tout, les syndicats ont perdu la main sur l'assurance chômage et n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables de se mettre d'accord entre eux.
Pour la deuxième fois, effectivement, parce qu'il y avait déjà eu une réforme sous le précédent quinquennat Macron en 2019. Oui, alors après, la lettre de cadrage qui leur était imposée par le gouvernement était très strict en fait dans la négociation paritaire, c'est-à-dire entre les représentants, les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. Le gouvernement au début fixe ses conditions et si les différentes parties ne parviennent pas à s'entendre dans un certain délai sur ces conditions-là, eh bien il n'y a pas d'accord. C'est ce qui s'est passé là encore une fois entre syndicats et patronats, ce qui conduit le gouvernement à reprendre la main et à pouvoir à nouveau écrire lui-même seul les nouvelles règles de l'assurance chômage et le tour de vis qui s'annonce pour la durée d'affiliation, c'est-à-dire la durée à laquelle qu'on doit travailler avant de toucher l'assurance chômage. Alors, il y a cet élément-là, effectivement, il y a ce sentiment que, en fait, le paritarisme est un peu en panne, qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est pourtant important, et puis dans certains cas, ça marche. Je vous prends l'exemple des retraites. Vous avez les retraites des fonctionnaires sont déficitaires, c'est un régime qui est déficitaire, on en a reparlé pendant la réforme des retraites l'an dernier, et chaque année, l'État met plusieurs dizaines de milliards d'euros à la poche, simplement pour compenser ce régime déficitaire. À l'inverse, le régime des retraites complémentaires du privé, il est géré par les syndicats et le patronat. C'est un régime excédentaire. C'est-à-dire que c'est un régime qui marche bien, qui est bien tenu et sur lequel l'État, d'ailleurs, a voulu faire une ponction. C'est le régime Agirc-Arrco, je un mot barbare, mais ça s'appelle comme ça. L'État a voulu faire une ponction sur ce régime parce qu'il est excédentaire et parce que lui trouvait que c'était logique en conséquence de la réforme des retraites. Donc, vous voyez que, finalement, la négociation entre syndicats et patronats, normalement, elle est faite pour gérer à certaines choses hors du contrôle de l'État, pour que l'État n'est pas le contrôle sur toutes les dimensions de la protection sociale, pour que ce soit des représentants des salariés, des représentants des patrons qui voient ça entre eux et qu'on n'étatise pas tout le champ de la protection sociale. Là, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, et c'est aussi l'intention de Bruno Le Maire, d'ailleurs il l'a dit, le ministre de l'économie, c'est de faire passer les syndicats pour des gens qui ne sont pas capables de s'entendre, ce qui est vrai dans certains cas, on l'a vu récemment, et du coup d'avancer le champ de l'État dans la protection sociale. Et là, la prochaine étape, en tout cas ce qu'ils veulent, c'est le chômage. C'est étatiser l'assurance chômage qui apparemment est géré jusqu'ici paritairement. Eh bien, la volonté de Bruno Le Maire, hein, il l'a dit, c'est que ce soit l'État qui gère l'assurance chômage, que ce ne soit plus les syndicats. Mais vu les déficits de certains régimes, on peut se demander si l'État fait réellement mieux que les partenaires sociaux dans ce domaine.
Mais vous le disiez, l'exécutif veut faire passer les syndicats pour des gens qui ne sont pas capables. Charles Sapin, depuis 2017, Emmanuel Macron n'a rien fait pour aider les syndicats. C'est une relation très contrariée.
Non, exactement. Et puis d'ailleurs, il a théorisé jusque... Enfin, on se souvient de sa campagne de 2017. Il avait euphémisé l'utilité des corps intermédiaires et donc des syndicats. Et là, on voit le résultat finalement de cette politique, c'est-à-dire, comme vous l'avez souligné, des mobilisations qui sont en baisse, mais avec une radicalité en hausse. Et finalement, c'est un phénomène qu'on avait déjà connu après les lois El Khomri en 2016. C'est-à-dire que quand vous avez une mobilisation dans la rue qui n'a pas marché, qui n'a pas réussi à faire dérailler totalement un projet de loi contre lequel les syndicats se sont mobilisés, vous avez deux phénomènes, des gens qui ne se mobilisent plus s'ils trouvent que c'est vain, et des personnes qui au contraire s'énervent et ont une mobilisation beaucoup plus violente que par le passé. Et on est dans cette situation-là qui ouvre la voie en effet au gouvernement pour faire cette réforme de l'assurance chômage et trouver des économies là où il le peut pour réparer ce dérapage des finances publiques avec 1000 milliards de dettes supplémentaires sur 7 ans, ce qui proportionnellement est supérieur au bilan de François Hollande.
20h, 21h, les informés. Agathe Lambret.
Toujours en compagnie de Patrice Moyon, chroniqueur économique et social à Ouest France, Louis Osalter, journaliste politique au Figaro, et Charles Sapin, journaliste politique au magazine Le Point. Des affrontements ont éclaté la nuit dernière en marge d'un rassemblement pro-palestinien sur le campus de l'université UCLA à Los Angeles. Coup de bâton, jet de projectiles, feu d'artifice. Bonsoir Simon Grivet.
Bonsoir.
Vous êtes notre expert ce soir, maître de conférence en histoire des États-Unis à l'Université de Lille. On va revenir sur ce qui s'est passé sur le campus de Los Angeles. Mais d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, combien d'universités américaines sont touchées en ce moment par ces manifestations pro-palestiniennes ? Est-ce que c'est un mouvement général dans le pays ?
Alors c'est un mouvement qui se répand, qui a commencé vraiment dans les unités d'élite, dans les universités d'élite, je veux dire, que ce soit Yale, Harvard, Columbia à New York. Et depuis quelques jours, on le voit se répandre dans des universités beaucoup plus modestes, des universités d'État, des universités qu'on ne connaît pas en France. Et il y avait une carte sur le site du journal New York Times avec, on voit à peu près 50, 60, 80 universités avec des mouvements de niveau variable. Donc c'est tout à fait massif comme mouvement, c'est de plus en plus répandu depuis quelques jours.
Et pourquoi cette mobilisation est apparue ? Par qui est-elle encouragée ?
Alors elle a commencé à Columbia, auprès de militants vraiment de la cause palestinienne, et de militants très marqués à gauche et à l'extrême gauche. Et elle se répand maintenant à la fois pour la cause palestinienne et à la fois aussi en réaction à la répression organisée par les autorités des universitaires. Vous savez que comme en France, il y a une franchise universitaire, donc en théorie, il y a quand même une protection de la liberté d'expression. Et on assiste cette année à un niveau de répression qui est à la fois très rapide et assez violent. Donc souvent, les images... Alors, le cas de Los Angeles est un peu particulier. Deux camps, deux groupes qui se sont battus avec des pro-israéliens qui sont venus pour se battre avec les pro-palestiniens. Mais dans la plupart des universités, que ce soit l'Université du Texas, que ce soit Columbia, bien sûr, les autorités universitaires ont très vite fait appel à la police, que ce soit la police de l'État ou à la police de la ville. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'arrestations. Voilà. Vous avez les images là du Texas. Ça a été assez radical.
Et pourquoi, selon vous ?
Ce qui est pas tellement dans les habitudes états-uniennes, où on a plus de respect pour les manifestations et la liberté d'expression.
Mais alors pourquoi, selon vous, ce changement de méthode et cette répression qui n'était pas dans les habitudes américaines ? Il y a la crainte d'un embrasement encore plus violent ? C'est le contexte électoral ? Comment vous l'expliquez ?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur qu'on retrouve aussi en France, qui est la crainte de l'occupation et des dégradations. Ça peut jouer. Après, je pense que ce qui est très important aussi, c'est la pression qu'ont mis certains donateurs dans les grandes universités qui ne supportent pas les prises de position anti-israéliennes. Il y a ces accusations d'antisémitisme qui font des ravages. On a vu plusieurs présidents d'universités être accusés d'être faibles dans leur lutte contre l'antisémitisme par des élus républicains. Donc, en réaction, beaucoup de présidences d'universités ont voulu frapper fort très vite. Voilà, du coup, le climat est très tendu sur ces sujets et assez surprenant en termes de répression et d'étouffement de la liberté d'expression des étudiants.
J'ai d'autres questions à vous poser sur les États-Unis, mais vous qui êtes spécialiste, est-ce que vous voyez une comparaison possible entre ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et ce qui se passe en France, notamment à Sciences Po, où vous dites non, il n'y a pas d'américanisation. Est-ce que vous voyez les mêmes signaux faibles, j'ai envie de dire, voire signaux très explicite.
Ça nécessiterait une enquête plus approfondie. Évidemment, nos étudiants et nos étudiantes, moi je suis enseignant à l'Université de Lille, ils suivent ce qui se passe dans l'actualité et exactement comme les jeunes de leur âge aux États-Unis, ils sont choqués par la tragédie de Gaza, par les 32 ou 35 000 morts civiles. Donc ils ont envie de se mobiliser. Ce qui est du point de vue, là c'est l'universitaire qui parle français, ce qui est un petit peu agaçant, c'est que les médias braquent les caméras sur Sciences Po et s'intéressent peu à ce qui se passe dans nos universités publiques. Les universités publiques ont des mouvements de mobilisation depuis longtemps. Bon, elles ne forment pas les élites, elles forment moins les élites que Sciences Po, donc on en parle moins. Après, oui, les étudiants de Sciences Po, ils sont comme les nôtres, ils ont envie aussi d'exprimer leur indignation vis-à-vis de cette tragédie.
Et on a tous en tête les images des mobilisations contre la guerre du Vietnam. Est-ce qu'il y en a eu d'autres entre-temps chez les
étudiants ? Alors oui, plus récemment, en 2020, il y a eu des menaces très importantes au moment de l'assassinat de George Floyd par la police de Minneapolis. Ça avait été très fort. Un peu plus loin, il y a une vingtaine d'années, on a eu des mobilisations très fortes au moment de l'invasion de l'Irak en 2003. Et puis, lors de la crise 2008-2010, il y avait vraiment Occupy Wall Street qui avait été fort. Donc, tous les cinq, quand même, des vagues comme ça. Mais c'est vrai que celle-ci est assez, assez inattendue parce qu'elle arrive un petit peu... Bon, si on considère que l'invasion israélienne a commencé à Gaza dans les jours d'octobre, finalement, là, ça n'a commencé ces dernières semaines. Donc, ça a été un petit peu ralenti. Mais du coup, bon, comme les États-Unis sont dans cette position très étrange où à la fois ils soutiennent l'État d'Israël dans sa guerre, et en même temps, ils veulent donner de l'aide alimentaire aux Gazaouis. Bon, je pense que là aussi, il y a beaucoup de débats et de controverses.
Simon Grivet, avant le fil info, est-ce qu'il y a un leader dans cette contestation ?
Non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que, bon, si on prend l'exemple de l'Université de Columbia, il y a eu, je crois, j'avais lu dans la presse états-unienne, il y a eu une centaine d'organisations étudiantes différentes. Donc, c'est normal. Les étudiants... ont peu de personnalités qui sont mises en avant. Une qui est apparue, je crois que son nom c'est James Wilson, qui a fait quelques déclarations très controversées. Les étudiants sont soutenus par certains des élus les plus radicaux au Congrès, que ce soit Ocasio-Cortez ou d'autres, mais pour l'instant il n'y a pas de figure étudiante qui est apparue clairement.
20h-21h, les informés, Agathe Lambray.
Toujours en compagnie de Patrice Moyan, éditorialiste à Ouest France, Charles Sapin, journaliste politique au magazine Le Point, et Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. Louis Osalter, vous étiez élève de Sciences Po il y a quelques années, je ne me permettrai pas de vous demander combien d'années.
Ça ne me rajeunit pas.
Malgré votre jeunesse. Est-ce que vous reconnaissez dans ces jeunes qui manifestent, est-ce que vous reconnaissez vos anciens camarades de Sciences Po ou vous dites Sciences Po a bien changé ?
Oui, je reconnais un peu. En fait, il y a toujours eu des excités. Je dis excité parce que c'est, en fait, c'est une minorité agissante. Ce qui a été dit beaucoup à ce propos est vrai. À l'époque également, mais je ne parle pas que de Sciences Po. En fait, c'est vrai dans bien des mouvements universitaires, des mouvements lycéens aussi. Quand des blocages et des manifestations, des sit-ins comme ça sont organisés, c'est toujours une minorité agissante, une minorité très bien organisée. Déjà pour la bonne raison qu'elle passe plus de temps à organiser ça qu'à aller en cours, par exemple, et puis parfois d'éléments extérieurs aussi qui font pas du tout partie de Sciences Po ou de l'université en question, mais qui viennent prêter un coup de main. C'est l'organisation des mouvements étudiants qui est comme ça. Donc ça a toujours existé. Après les causes de mobilisation varient, c'est plutôt ça en fait qui change selon les époques.
Et celle-là, elle est nouvelle. Alors, vous avez déjà entendu des
ah si quand non, même la cause palestinienne, ça a tout, quand même pas mal mobilisé. Alors c'est toujours le problème, c'est que c'est pas éruption, c'est un conflit qui existe depuis des décennies. Dès qu'il y a une éruption de violence, comme ce qui s'est passé effectivement après les attaques terroristes du 7 octobre, puis les opérations meurtrières de l'armée israélienne, bah voilà, ça a des répercussions, notamment dans le milieu universitaire. Mais moi, je me souviens, là, c'est amusant, il y avait eu un blocage contre une venue d'Éric Besson, qui à l'époque était ministre de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Identité nationale. Donc c'était sous le quinquennat à Sarkozy, et parmi les bloqueurs, il y avait un certain Gabriel Attal, par exemple, alors que moi, je n'ai pas du tout connu à Sciences Po, j'ai découvert plus tard qu'il avait fait Sciences Po, d'ailleurs, mais lui faisait partie, à l'époque, des socialistes à Sciences Po, enfin, de la branche du Parti Socialiste de Sciences Po, dans laquelle il était investi, il tractait, etc. Donc, voilà, c'est-à-dire que certains qui, ensuite, font une carrière politique en ne disant pas d'ailleurs tout à fait la même chose que ce qu'ils disaient à l'époque, certains d'entre eux ont commencé en, pas en faisant le coup de poing, l'expression est trop forte, mais en organisant ce type de blocage, de sit-in dans les universités. Je rajoute une seule chose, c'est que ceux qui ont connu, et j'en fais pas partie du tout, les actions étudiantes dans les années 70, par exemple, quand il y avait le GUT qui faisait le coup de poing contre ceux qu'ils appelaient les gauchistes dans les rues de Paris, qui avait des bagarres, qui avait des points américains déployés, ils doivent trouver ça un peu petit bras, en fait, ce qui se passe dans les universités. Pas du tout que je cautionne ce qui se passe, et c'est évidemment une minorité agissante qui empêche le déroulement des cours, le déroulement d'examens, qui perturbe le fonctionnement des institutions en important un conflit alors que ça n'a pas forcément lieu d'être. Mais le mouvement étudiant et la violence même de certains dans le milieu étudiant, c'est pas du tout nouveau en France. Et ça a été bien plus violent dans une époque révolue.
Ça vous choque, Patrice Moyon, qu'on évacue des étudiants ?
Les mobilisations étudiantes font partie de l'histoire universitaire. En revanche, ce que j'observe, c'est que ce qui s'est passé depuis le 7 octobre crée des lignes de fracture un peu partout dans le monde, mais y compris au sein de la société israélienne aujourd'hui, qui se déchire sur ce qui se passe. C'est Netanyahou est dans une fuite en avant, et c'est comme ce conflit est devenu comme un cancer qui métastase un peu partout, et à une partie de la gauche française, LFI en particulier, qui considère aujourd'hui que les Palestiniens sont les nouveaux prolétaires du 21e siècle. Voilà.
Et la réponse du gouvernement dans tout ça, vous parliez du lointain passé socialiste de Gabriel Attal. On écoute le Premier ministre.
L'université, c'est le lieu du débat. On y débat beaucoup, et c'est sain. Moi, je serais toujours favorable à ce qu'on puisse débattre de tous les sujets à l'université. Mais pour débattre, il faut respecter les opinions contradictoires. Le débat, oui. Le blocage, non. Il n'y aura jamais de droit au blocage. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, quand la Sorbonne notamment a commencé à être occupée, j'ai donné ordre tout de suite qu'on évacue les personnes qui bloquaient la Sorbonne, et on continuera à chaque fois que certains chercheront à bloquer les universités ou d'ailleurs tout autre équipement public à demander l'évacuation.
Il a bien changé, Gabriel Attal, Louis Osalter. Charles Sapin, on l'a vu, un Premier ministre droit dans ses bottes, ferme. Est-ce que l'exécutif maîtrise les événements, la situation ?
Écoutez, oui, le Premier ministre est dans son rôle à opposer la liberté d'instruction et d'enseigner à la liberté d'expression, et qui peut connaître des limites. Après, moi, je vais rebondir un peu à ce que j'ai entendu et au propos de Louis Osalter. C'est vrai que quand on se replonge dans les années 80, on peut voir une forme de constance, et on a déjà vu ces images de sitting, d'occupation. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a quand même changé, c'est la réaction de l'établissement. Puisque quand on regarde l'établissement qui est Sciences Po, on voit quand même une institution prestigieuse qui est comme... tétanisée face à, vous l'avez dit, une minorité agissante.
Et qui a capitulé, d'ailleurs.
Et qui est utilisée, enfin, et qui est poussée, soutenue par une extrême gauche qui utilise le drame palestinien à des fins politiques. Et si vous voulez, face à ce phénomène-là, vous avez... en France, en tout cas, il y a eu deux exemples de réactions. Vous avez eu la réaction à Lille, dont on a entendu un professeur d'histoire tout à l'heure, mais qui très, très vite a vu en fait une mobilisation politique, ce qui n'était plus qu'une mobilisation étudiante, mais des élus locaux, puis nationaux, puis Jean-Luc Mélenchon arrivé. Ils ont décidé d'interdire la conférence, et aujourd'hui, le calme est revenu, il y a la paix civile dans l'université, et notre ami historien peut continuer de donner ses cours tranquillement. Et Sciences Po, qui a décidé de ne pas recourir à cette interdiction. Or, le bâtiment principal est bloqué, ils sont obligés de trouver d'autres lieux pour donner des cours. Ce qui a permis aussi des manifestations dans la rue avec des slogans niant l'existence d'Israël à connotation antisémite. Donc voilà, le changement est là, il est dans la réaction.
Charles Sapin, vous avez la main, journaliste politique au magazine Le Point. Est-ce que vous avez la une du Point cette semaine ?
Oui, ce sera justement sur ces événements à Sciences Po avec la question palestinienne.
Et voilà, et vous êtes l'auteur des Moissons de la colère, plongée dans l'Europe nationaliste aux éditions du Cerf. Merci Patrice Moyon, chroniqueur économique et social, éditorialiste à Ouest France. Merci aussi. Et la une de Ouest France, bien sûr.
La une de Ouest France est sur la complexité et la difficulté de rendre une justice environnementale.
Et Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. Vous avez la une du Figaro, Louis ?
L'Europe qui se réarme face aux nouvelles menaces de guerre.
Et merci à tous les trois. Merci
beaucoup. Merci beaucoup.
On se retrouve demain pour les informer avec Salia Braclia et Renaud Dely. Et nous, on continue à 20h.